Bienvenue dans le podcast beauté. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je me rends dans le premier arrondissement de Paris pour rencontrer la cofondatrice de la marque Éclos. Alors Éclos croit en une beauté aussi exigeante pour notre peau que pour la planète, mettant un point d'honneur à les préserver chacune durablement. Alors leur engagement c'est d'aller au-delà des préceptes de la clean beauty en développant une routine beauté positive, innovante et satisfaisante qui ne nuit pas aux écosystèmes naturels. Alors ça c'est très important et vous allez comprendre un peu plus tard dans cet épisode pourquoi. En tout cas tous les produits sont 100% d'origine naturelle, bio, vegan, made in France et les emballages aussi, ce qui est un peu plus rare en tout cas aujourd'hui. Donc oui, les emballages sont 100% naturels et c'est possible. Éclos est une marque très récente, il faut le savoir, c'est une marque qui est née en 2020. Et voilà, c'est parti, c'est le podcast beauté avec Priscille Charton, la cofondatrice de la marque Éclos. Bonne écoute. Alors bonjour Priscille, peux-tu te présenter aux auditeurs du podcast beauté, la plupart des passionnés de beauté? En fait, d'où viens-tu pour commencer?
Bonjour Katia, je suis Priscille Charton, j'ai 38 ans et je viens du sérail de l'industrie cosmétique puisque j'ai passé 12 ans dans un grand groupe. Chez Coty, qui est donc un grand leader international, connu pour ses marques de maquillage, aussi de soins, de parfums.
Parfums aussi, ouais.
Et donc moi, plus particulièrement, je travaillais en maquillage à l'innovation produit. J'ai travaillé pour des petites marques, des grandes marques, notamment Rimmel, qui est leur plus grande marque de maquillage et qui est vendue dans 83 pays. Et donc pour eux, j'ai travaillé sur des cycles de 3-4 ans à Londres, à Paris. Et c'était grisant de travailler sur des grands projets avec des égéries super connues, Kate Moss, Georgia Jagger, Beyoncé Knowles et plein d'autres. Et malgré tout, voilà, derrière ce monde de paillettes et de belles promesses, grandissait en moi une conscience écologique qui résonnait de plus en plus fort et qui résonnait de plus en plus en dissonance avec avec le grand groupe et du coup le manque de flexibilité du grand groupe pour innover différemment.
En fait, j'ai vu qu'en 2014, tu as fait un tour en voilier de l'Atlantique durant un an avec ton mari. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, tu as eu un déclic dans tes sociétés auparavant, mais est-ce que tu as eu un déclic encore plus important lors de ce tour en voilier?
Oui, clairement. Ça a été un peu le wake-up moment ou le wow moment de ces dernières années. Et en tout cas, je pense qu'on a tous une conscience écologique qui est grandissante et tant mieux. Mais quand on a l'occasion de voyager loin, parfois c'est pas la peine d'aller très très loin, mais que ce soit à sac au dos ou effectivement moi j'étais en voilier et j'ai pris un an sabbatique en 2014-2015 après notre mariage pour voyager, on a fait un grand tour dans l'Atlantique. Donc on a traversé deux fois l'Atlantique et on a passé 12 mois sur un bateau. Ah. Et voilà, j'ai épousé un amoureux de la mer.
Ah oui, c'est pour ça. Donc, il connaissait un peu quand même.
Il connaissait un peu. On s'était un petit peu entraîné quand même.
Oui, parce que je me disais qui s'y connaissait dans le couple.
Plutôt lui, le capitaine. Et il ne s'est pas passé un jour vraiment sans que je voie flotter quelque chose. Quoi. Et essentiellement du plastique.
En plus, en plein... En
plein milieu de l'Atlantique. Ouais. Et je ne parle même pas de chaque côté de l'Atlantique, parce que sur les plages, c'est aussi un amoncellement. Mais au milieu de l'Atlantique, quand on voit flotter des choses déjà visibles à l'œil nu, donc je ne parle même pas de ce qui n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est aller du saut au kayak, à la particule de quelques centimètres d'éclat de plastique. Et évidemment, on ne revient pas inchangé d'un voyage comme ça, qui du coup me renvoyait encore plus face à une réalité de ce décalage entre ce monde merveilleux des cosmétiques et en fait l'état un peu alarmant de dégradation de la planète. Et donc je me suis fait cette promesse de me dire... il est obligatoire de tout faire pour innover différemment dans les cosmétiques. On ne va pas arrêter de se faire plaisir, de se faire plaisir avec des produits cosmétiques, que ce soit des soins, du maquillage. Et pour autant, il est urgent d'essayer de réconcilier ces deux mondes. Et donc, ça, c'était en 2015.
Tu étais toujours chez Coty à l'époque.
Toujours chez Coty. Je reviens chez Coty à ce moment-là pour de nouvelles aventures. Mais,
ça n'allait pas, quoi.
Et toujours plus que jamais... convaincue de tout essayer pour essayer de mettre en place un agenda un peu plus éco-conçu. Et en plus, à ce moment-là, j'ai rapidement un premier enfant. Par ailleurs, donc évidemment, un enfant, c'est le bouleversement pour une femme, prise de conscience écologique, est-ce qu'on laisse à ses enfants, quelle planète on laisse. Et dans le même temps, rapidement après, Coty me propose une super opportunité à Londres.
Ah ouais.
J'adore cette ville, j'y avais déjà passé quelques années. Ouais. Donc j'accepte.
Ah oui, d'accord.
J'accepte, je repars avec mon mari, mon enfant, un deuxième enfant qui arrive juste avant le départ.
Waouh. ça faisait beaucoup, là.
Ça faisait beaucoup. Et en même temps, c'est ça aussi, gérer les opportunités pro et ses congés mat. Bon, parfois, ça se chevauche un peu. Et donc, malgré tout, je continue à évoluer dans ce monde merveilleux de Coty qui est quand même génial quand... on apprend plein de choses, je rencontre plein de gens, j'ai l'occasion de travailler sur des projets géniaux avec du budget.
C'est innovant.
De partir à Londres, c'est innovant. C'est aussi un groupe qui est à l'écoute quand même de mes projets à l'époque. Mais quand même, ce décalage est grandissant. Et en 2020, alors dans un contexte...
Récemment en fait, récemment. Voilà,
ouais. Dans un contexte particulier que tout le monde connaît. Ouais. De Covid, alors en plus nous on était à Londres encore et donc de Brexit, je décide de quitter Coty, plus du tout en adéquation avec les valeurs du groupe, et donc je décide de quitter Coty et de faire une formation à Cambridge sur la sustainability dans les business, comprenant que il se passerait jamais rien de très différent chez Coty en termes de conception de produits, et pourtant c'est vraiment ça qui m'anime. Et je me dis que vu l'urgence à faire les choses différemment, il y a un boulevard pour faire, en fait.
Ouais.
Armée de ces 12 ans d'expérience chez Coty et ensuite de cette formation passionnante à Cambridge sur la sustainability dans les business, je comprends encore plus qu'il y a urgence à agir, qu'on peut encore agir. Mais par contre, dans un grand groupe, c'est compliqué. Enfin, ils n'ont pas l'agilité, ils n'ont pas...
Oui, trop de validation.
Ils peuvent pas prendre le risque, en fait, de tout changer, de perdre leur clientèle fidèle, de changer une image de marque totalement. Ouais. Donc en fait, il faut from scratch lancer une marque dont c'est l'ADN de base, en fait. Et donc ça, c'est vraiment... ça faisait des années que je me disais, il faut faire les choses différemment. Donc j'avais ces velléités entrepreneuriales depuis longtemps, mais...
Mais tu savais qu'en toi, tu voulais quand même créer ta marque un jour ou pas
vraiment? Oui, si. Ouais. Ça faisait longtemps. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, il y en a peu qui se lancent.
Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout quand t'es dans un gros groupe.
Ouais.
Encore moins.
Oui. Alors après, je pense que on passe toutes par... il y en a beaucoup qui passent par ce moment de se dire quel sens j'ai dans mon job tous les matins à faire ce que je fais.
Ouais.
Et du coup, moi, j'étais toujours animée par vraiment, très stimulée par l'idée de concevoir des nouveaux produits, analyser un marché, des opportunités de lancement qui répondent à des nouveaux besoins, tout ça, mais plus de la pétrochimie dans du plastique.
Ouais.
Et pouvoir expliquer à mes enfants que oui, je fais des rouges à lèvres et des...
et en quantité énorme en plus.
C'est du maquillage qui ne pollue pas. Et en fait, pouvoir expliquer ce qu'on fait et trouver que ça a du sens à un enfant de 4-5 ans, c'est déjà génial, en fait.
Ouais.
Et donc voilà. En fait, en 2020, fort de ces deux expériences... Coty plus la formation à Cambridge, je prends conscience que... Enfin, je me sens en mission, en fait. Je me dis, on a tous le devoir, quel que soit son niveau d'expertise, ses qualifications, ses compétences, de faire notre max dans notre domaine pour agir, dans ce sens-là. Pour changer, que ce soit ses modes de consommation, ses habitudes de voyage, même dans ce qu'on transmet à ses enfants. Je me suis lancée dans cette aventure de l'entrepreneuriat.
Alors justement, à quel moment, parce que j'ai vu que tu étais la cofondatrice, il y a deux hommes avec toi, comment s'est fait le lien avec ces personnes? Parce que je crois que, j'ai regardé un peu leur profil, ils sont pas forcément du milieu de la cosmétique. Voilà, qu'est-ce qui s'est fait? À quel moment ça a été go? On fait la marque, quoi, on crée Eclo.
Alors, à Londres, en 2020, au moment où je me posais sérieusement la question, peu de temps avant de quitter Coty, je rencontre Julien Khaled, qui est le fondateur, dont on avait une amie en commune, et c'est le fondateur de Made.com, entre autres.
Made, ouais.
qui a fondé un certain nombre de, d'autres, enfin cofondé un certain nombre de marques, donc il est vraiment entrepreneur dans
l'art. Oui. Assez connu dans le milieu.
Très connu dans le milieu, ouais. Gros success story made, on en a malheureusement parlé un peu plus la semaine dernière,
oui,
mais j'ai... il n'était plus du tout au rennes de la marque.
Okay.
Il n'avait plus la marque entre les mains. Mais donc à ce moment-là, je contacte Julien plutôt pour avoir des insights sur l'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut monter sa marque en ayant des enfants, des jeunes enfants notamment. Et ce à quoi il me répond, évidemment, la seule vérité dans l'entrepreneuriat, c'est quand on veut, on peut.
Mmh.
Donc ça a suffi à me motiver, sauf que Julien n'a pas d'enfants.
C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il en a?
Il n'a pas d'enfants,
mais
au final... Peut-être qu'il a bien fait de me répondre ça, quoi qu'il arrive.
Oui, ça t'a motivé.
Voilà.
C'était le but.
Je ne serais peut-être jamais lancée s'il avait eu des enfants.
Ouais. Il t'aurait peut-être dit l'inverse et t'aurais rien fait.
C'est ça. Mmh. Parce qu'entre-temps, à Londres, j'ai eu un troisième enfant.
Ah d'accord, ouais.
Et même en plein démarrage du projet, où on se lançait vraiment dedans avec Julien, j'apprends que j'attends mon quatrième enfant.
Ah ouais.
Qui est née il y a un an, voilà.
Waouh.
Ma petite dernière.
Bravo, bah,
donc,
Beaucoup de
résilience,
oui, et beaucoup de nouveautés.
Beaucoup de nouveautés, mais finalement, en fait, ce projet, c'est une quête de liberté. Quand on lance quelque chose, une boîte, ça ne se vérifie pas au début, mais aussi, avant tout, une quête de sens.
Mm.
Et en fait, quand tout a du sens, on trouve l'énergie.
Mm. C'est vrai.
Et donc, pour revenir à mes associés, donc, finalement, Julien, rapidement, il me fait comprendre que les cosmétiques, ça l'intéresse.
Okay.
Et qu'il veut en savoir plus sur le projet que j'ai en tête. Et,
et
en fait, il est emballé par le projet et finalement, il devient mon associé.
Ok. Et il y en a un autre.
Et voilà. Et donc là, pendant un an, on travaille avec Julien sur la conception de ce projet, dont ma volonté première de créer Éclos, c'était vraiment de réconcilier l'industrie de la beauté et l'écologie sur le long terme.
Mm-hmm.
Alors, ça commence par du maquillage parce que c'est de là où je viens et que je connaissais bien ce marché.
Mm-hmm.
Et que aussi, je savais que pour connaître ce marché... Enfin, à mon sens, il n'y avait pas de marque de maquillage qui cherchait à pousser le curseur le plus loin possible à toutes les étapes de la chaîne de valeur.
Mmh.
Et donc, pour moi, le maquillage, c'était vraiment un peu l'autre bout du spectre de l'écologie. En termes de futilité,
oui.
De superficialité. Mmh. Alors qu'en fait, ça peut tout à fait être associé à du plaisir sans sentiment de culpabilité.
Exactement.
Donc j'ai commencé par ça et en fait donc on travaille dessus et Julien il a un super réseau, donc il nous met en relation avec un cabinet de conseil en sustainability qui s'appelle Standard Deviation, qui nous familiarise avec le concept de la régénération. Je peux en reparler après, mais et en fait donc en travaillant sur ce projet, le problème dépasse un peu parce qu'il va beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé. En fait, moi j'avais imaginé à la base des produits sans écotoxicité, enfin le moins possible, avec donc des formules biodégradables. Alors le pack, c'est un énorme enjeu.
Ouais, le pack, c'est...
Il faut bien sûr être dans une logique de circularité aujourd'hui, mais dans ma tête, se recycler le plastique, c'était bien, mais ça suffisait pas.
Mm.
Donc j'ai plutôt visé des biomatériaux compostables.
On va en parler des packagings, j'ai tout un sujet là-dessus.
Voilà, donc l'idée c'était vraiment une approche très complète, globale du projet.
Oui, tout fait sens quoi.
Tout fait sens, ouais. Voilà. Et donc après, bon, je vous en reparlerai aussi, mais le concept de la régénération c'était vraiment le stade ultime.
Oui, non mais ouais, c'est. Justement, on est d'accord que Éclos, c'est une marque de maquillage donc biodégradable, on peut dire ça, et compostable, grâce au packaging aussi, zéro plastique. Juste pour être sûr, tout est créé en France.
Tout est créé en France.
En Bretagne, c'est ça, labo est en Bretagne. Ouais. Tu habites en Bretagne d'ailleurs.
Oui.
C'est ça. Hein. Juste pour que les gens qui ne connaissent pas la marque Éclos, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que tu as comme produit justement chez Éclos? Il y a du rouge à lèvres.
Rouge à lèvres, en 4 teintes, des blushs,
trois
teintes et des ombres à paupières.
Et des ombres à paupières.
4 teintes aussi.
Voilà. Et pour situer la marque, tout est dans des petits pots super biodégradables et compostables. Alors, juste, peux-tu nous dire concernant les textures, les couleurs, où est-ce que tu as voulu aller justement, sachant que c'est une marque 100% bio, 100% vegan, sans aucun produit chimique?
Pour répondre à ces exigences, à ce cahier des charges quand même assez exigeant.
C'est super exigeant.
Le cosmos organique, sans eau.
Sans eau, oui, alors oui, j'allais en parler, mais oui, sans eau en plus, ouais.
Sans eau, parce que l'eau, bon, c'est une ressource précieuse, quand on peut s'en passer, on s'en passe, ouais. Et en plus, ça a plein de vertus, parce qu'il n'y a pas besoin de conservateur, ça permet un format nomade, ça ne coule pas.
Ouais. D'ailleurs, sans eau, on dit que les produits sont
anhydres,
hein, c'est ça, ouais. C'est okay. Ça. Ouais.
Et donc, effectivement, c'est toute la gamme, donc tous ces produits de cette première gamme, ils sont dans ce petit pot rond. Et ils sont faits à base de cire végétale, de pigments minéraux ou végétaux, 100% d'origine naturelle. Mmh. Et ils s'appliquent de manière assez intuitive à l'aide de petits mouvements circulaires au doigt.
Oui.
Ce qui permet de faire fondre la cire sous l'effet du doigt, de la chaleur du doigt. Et ils s'appliquent de manière intuitive.
Hyper facilement.
Au doigt. Et puis surtout, sur le visage, donc en tapotant, en étirant, en fonction... on module la couvrance selon les envies. Puis on peut aussi jouer entre les textures et les produits, et interchanger son blush, son rouge à lèvres. Ça marche un peu moins que les ombres à paupières. Mais donc l'idée, c'est vraiment un maquillage qui sublime plutôt que qui transforme.
D'accord, ouais.
Un maquillage au quotidien qui va vraiment révéler révéler une beauté de manière assez... naturel, subtil, et qui est pas du tout, on n'est pas du tout dans une recherche de look transformant avec une course à la tenue.
Oui, tout n'est pas hyper trop pigmenté, quoi.
Ben, on a des rouges à lèvres qui le sont quand même pas mal, mais globalement, c'est vraiment, je dirais, pour un maquillage très... très élégant, finalement, parce qu'il est assez sobre, et c'est pas un maquillage qui est sophistiqué.
D'accord, ok. Très bien. Et justement, j'avais vu que pour la première gamme de maquillage, vous vous êtes inspirée du cycle naturel de la nature en intégrant trois ingrédients vertueux. Ça veut dire quoi, les trois ingrédients vertueux, du coup ?
Oui, alors le cycle naturel de la nature, en effet, de manière générale, la nature nous inspire.
Oui.
Et c'est même le nom de la marque, puisque éclos fait référence à éclosion. Donc, c'est cette idée de régénération naturelle, cette capacité à se régénérer tous les ans avec les saisons. Et donc l'idée, c'est vraiment de respecter ce rythme-là et donc du coup de rendre à la Terre ce qu'on lui prend. Mmh. Et donc on s'intéresse justement aux limites planétaires et à l'idée de se dire on prend donc on rend. Mmh. On rend au moins autant, si ce n'est plus. Et c'est l'idée des ingrédients vertueux, ou c'est nos principes actifs un peu activistes, c'est qu'on les a choisis pour leurs bienfaits pour la peau, mais aussi pour les sols. Et en fait, on dit que ce sont des ingrédients qui sont régénératifs.
D'accord.
Et après, je reviendrai sur un autre angle de la régénération, mais donc c'est vraiment cette idée de régénération, c'est que par exemple, nos ombres à paupières ont du chanvre qui pousse, ça pousse partout le chanvre, mais ça pousse notamment en Bretagne, à côté du labo. Et le chanvre a des vertus apaisantes et hydratantes pour les ombres, pour les paupières.
D'accord.
Mais aussi pour les sols, il a une capacité à absorber les toxines et les métaux lourds et à donc dépolluer les sols. Et donc c'est une plante qui est vraiment intéressante pour régénérer les sols. Et en plus, elle est très résiliente aux aléas climatiques, elle a besoin de peu d'eau. Tout comme le seigle, qu'on a choisi pour notre blush. Et le seigle, il est riche en arabinoxylane, donc il va donner un effet bonne mine naturel. Mais pour les sols, il a en fait la particularité d'avoir des très très longues racines et très nombreuses. Mais longues, c'est en centaines de kilomètres.
D'accord.
Sauf qu'elles sont toutes interconnectées entre elles. Donc elles ne sont pas étendues en traversant la France, mais elles sont toutes interconnectées. Et donc en fait, cette interconnexion des racines, ça favorise finalement la transmission des données, enfin des nutriments entre racines. Et ça favorise l'habitat. Donc en fait, tout ça favorise la restauration de la biodiversité.
D'accord.
Et enfin, on a de l'algue dans notre rouge à lèvres, donc aussi à côté du labo breton.
Oui, l'algue.
L'algue bretonne dans la baie de la Rance, qui est cultivée de manière... c'est du jardinage en mer raisonnable et raisonné.
Okay.
Donc en fait, par ce biais-là, on s'assure que le producteur d'algue s'assure que l'algue est plutôt protégée que menacée.
D'accord.
On s'assure qu'elle est toujours là où elle doit être, en quantité suffisante. Et pour donc c'est vraiment l'algue, c'est le maillon essentiel de l'équilibre de l'écosystème marin. C'est une capacité de capture de carbone qui est la plus élevée de tout végétaux sur Terre. Et dans les rouges à lèvres, l'algue est connue pour ses effets repulpants, lissants. Voilà. Et en fait, le deuxième angle de la régénération, c'est qu'en fait, on travaille, et on a aussi, depuis le début, avec une association qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, donc PADV pour les intimes. Et eux, en fait, ils œuvrent pour accompagner des producteurs, c'est vraiment, on parle des fermes, des producteurs dans leur transition vers de l'agroécologie et vers l'agriculture régénératrice, c'est la même chose. Et en fait, l'idée, en quelques mots, l'agriculture régénératrice, c'est un ensemble de méthodes, de modes de gestion très holistique des terres, mm-hmm. qui va plus loin que le bio et qui permet justement de, notamment de restaurer le vivant dans la terre. Ça a plein de vertus, en fait. Et donc, la terre plus vivante va être plus riche en nutriments, va permettre que ce qui pousse et donc est plus riche en nutriments, et c'est intéressant pour l'agroalimentaire, c'est intéressant pour l'efficacité en cosmétique, et aussi en fait ça va permettre une capacité de capture de carbone qui est augmentée. Ça c'est la magie de la photosynthèse. Et en fait tout sol, donc ils recommandent ça notamment dans les pratiques agricoles, c'est que le sol ne doit jamais être à nu, puisque c'est le couvert végétal justement qui doit être minimum de 20-25 cm, va permettre cette capture de carbone augmentée. Tout ce mouvement-là encourage notamment la régénération comme moyen, enfin la régénération des terres comme moyen naturel efficace pour lutter contre les excès de CO2 dans l'atmosphère.
Waouh. Non mais je pense qu'on n'a jamais parlé d'une marque de maquillage qui va aussi loin, aussi loin dans la terre, en fait.
Oui,
c'est beau, c'est beau.
Nous, c'est de la terre au pot. Alors, c'est des concepts qui ne sont pas évidemment liés à la base.
Je me dis que, tout ce que tu as dû faire derrière a dû être tellement long. Rien que trouver un labo qui fait ça. Le packaging, on en parlera après, mais je m'y connais un peu dans les cosmétiques. C'est vrai que tout vient en plastique. C'est encore très compliqué de trouver des packaging, et de loin, de Chine, etc., qui ne viennent pas de Chine. Il y a encore beaucoup de marques aujourd'hui françaises qui utilisent des packaging en plastique qui viennent de Chine. Donc, j'imagine le travail derrière.
C'est un chantier qui est en cours. Hein. Alors pour cette première gamme, on avait identifié ces principes actifs régénératifs, chercher à vraiment pousser les murs dans les filières d'approvisionnement dans l'industrie, des matières premières dans l'industrie cosmétique, créer des nouvelles voies, créer des ponts entre. Ben maintenant, en fait, c'est le chantier que je mène pour tous les développements à venir, c'est-à-dire. Puisque c'est assez opaque finalement l'origine des matières premières, là en fait le meilleur moyen de faire ça, d'avoir moins d'opacité, c'est de partir du producteur.
Ouais.
Et du coup nous on s'intéresse à des producteurs qui travaillent la terre de cette manière là, qui sont déjà membres de l'association par exemple, et en fait mon chantier c'est d'ouvrir des voies. Je suis en train de le faire avec du lin par exemple, à un producteur qui cultive le lin mais qui ne fournit pas du tout l'industrie des cosmétiques.
Oui.
Donc là il faut trouver des raffineurs. Ouais. Et faire les liens finalement de tous les maillons entre un producteur et un labo.
Ouais.
Donc c'est soit en amont comme ça, soit en aval. C'est aussi notre rôle, c'est aussi d'éduquer sur nos consommatrices et notre communauté sur tous les bienfaits de l'agriculture régénératrice, parce que ce soit dans leurs produits de maquillage ou autre, hein, n'importe quelle personne qui cultive sa terre pourrait être sensible et intéressée à ces sujets.
Et utiliser tous les produits qu'on a en France, par exemple, comme tu viens de dire, l'algue en Bretagne, mais le lin, il y en a beaucoup en France aussi, et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, quoi.
Exactement.
Eh ben, très bien, écoute, justement, j'ai envie de parler de vos packaging, parce que je trouve que c'est quelque chose que vous avez en plus par rapport à d'autres marques. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des petits pots conçus à base d'amalgame végétal. Il y a zéro déchet, aucun résidu plastique ni chimique. Je ne l'ai pas vu sur votre site, mais je ne sais pas, j'ai vu une story où même le mascara, vous faites un mascara qui est dans le pot aussi. Comment ça se passe tout ça? Qu'est-ce que les gens disent? Et en fait, aujourd'hui... je pense qu'avec une marque de beauté comme ça, vous êtes un peu en train de changer aussi le comportement, les comportements des gens. Parce qu'on sait très bien que le mascara, c'est souvent... c'est pas en peau, par exemple. Le fard à paupières, c'est rarement en peau aussi, hein, où il y a toujours une petite... une petite spatule. Voilà, comment ça se passe aujourd'hui avec tout ce nouveau packaging, en fait? Grosse question.
De manière générale, ma volonté, c'était vraiment de simplifier la routine beauté. Mmh. Donc, c'est cette idée de mono-format pour tout. C'est aussi ces formats nomades, faciles à utiliser. Mmh. Enfin, voilà, comme je l'ai dit, moi, je suis une maman de 4 jeunes enfants. Je monte cette marque. C'est plus qu'une marque, c'est vraiment une aventure extraordinaire. Mais évidemment, je pense que... Et comme moi et comme plein d'autres femmes qui sont... On est tous super occupés, donc, que ce soit les enfants ou autres. Et donc, je trouve que déjà, une routine de beauté simplifiée et minimaliste, toujours associée quand même à du plaisir et à de l'efficacité, c'est important. Et donc, ce format, il est censé être très simple d'utilisation au doigt, très simple et pas d'accessoires. Après... pour celles qui sont adeptes des pinceaux,
elles peuvent le faire.
Tout à fait applicable au pinceau.
Oui, oui.
Et juste pour revenir au mascara, alors, on a bossé pendant 2 ans sur le développement du mascara solide.
Je l'ai bien vu quelque part.
Tout à fait. Pour autant, avant toute chose, avant de sortir un produit, on s'assure quand même de la satisfaction 100% du
client,
de la consommatrice, et de la consommatrice. Et sur le mascara, je crois je compte même plus le nombre d'essais qu'on a fait pour un résultat que j'ai estimé pas assez satisfaisant versus la contrainte que c'est que, enfin bon, je veux dire, acheter les clous, c'est quand même un achat engagé, parce que c'est comme 32€ le pot, mais donc acheter un mascara qui aurait été autour de 30€, qui met plus de temps à être appliqué avec un résultat qui peut décevoir, pour l'instant j'ai décidé que c'était pas assez satisfaisant pour le sortir. Donc sur le mascara solide dans ce format, c'est pas pour tout de suite, mais on a d'autres projets de mascara. Mais donc en tout cas, oui, pour revenir à ce petit pot, c'est pour moi, c'était la conception ultime de l'éco-conception, de pouvoir trouver ce matériau qui est 100% compostable. J'ai appris plein de choses à Cambridge, mais notamment que 80% de l'empreinte environnementale d'un produit se fait au moment de sa conception. Donc en fait, s'il est mal conçu, il n'y aura rien à faire derrière. Donc concevoir un produit depuis le début dans son utilisation et surtout la gestion de sa fin de vie, c'est primordial. Et donc ce fournisseur avec qui on travaille, c'est le seul qui a développé ce matériau 100% compostable, 100% d'origine naturelle, à base d'amalgame végétal, du bois, qui est issu de forêts certifiées en Europe, enfin gérées, comme on dit, FSC. Et une résine naturelle. Et alors, je voudrais juste préciser quelque chose sur le compostable, parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur le compostable.
Oui, parce que là, je pense que les gens vont se dire, est-ce que quand j'achète le pot, est-ce que je peux le remettre dans la nature, par
dans
exemple ?
Dans mon jardin ?
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y aura cette question, et tu as dû avoir cette question.
Oui, c'est normal. Mais alors, il se trouve que si vous le plantez dans votre jardin ou dans votre...
ça ne fera pas un arbre.
Non, ça ne fera pas un arbre. Mais on n'encourage pas du tout à faire ça, ni à le jeter dans la rue, encore moins. Mais ça finira par avoir un impact zéro en termes de résidus chimiques et plastiques.
Ok.
Je veux dire, au pire, s'il sort des filières de tri, il finira par quand même avoir cet impact zéro, ce qui est important pour moi.
Okay.
Mais pour autant, aujourd'hui, la norme de test, enfin le protocole de test de la compostabilité, elle est faite de manière industrielle. Donc, parce qu'en fait, c'est compliqué de dire si on le met dans son compost, en combien de temps il se dégrade, de donner des données précises, parce qu'en fait tout dépend des conditions climatiques, de ce qu'il y a dans le compost. Donc ce qui est sûr, c'est que ça mettra du temps dans une compost, comme une branche de bois se dégraderait en quelques années dans un compost. Donc là c'est pareil. Mais en tout cas, nous on encourage plutôt le compostage industriel. Donc là vous allez me dire, mais en France il n'y a pas de filière pour le compostage industriel. En l'état actuel des choses, il n'y en a que dans certaines villes de France, peut-être dans 6 ou 7 qui sont un peu avant-gardistes. Mais la loi pour la transition énergétique de 2015 le prévoit, le compostage industriel, de manière courante et répandue dans toute la France d'ici janvier 2024.
2024, j'ai entendu.
Alors après, les calendriers...
Oui. Il y en a, ça sera fin 2024.
Voilà, c'est bien sûr au modulo ces aléas de calendrier, mais en tout cas, c'est bien inscrit dans la loi et c'est bien un projet et ça finira par être mis en place. Et en tout cas, moi, j'ai habité des années en Angleterre. Ouais. À Londres, il y avait...
c'est déjà.
Tout le monde, tout foyer est équipé de sa poubelle de compost industriel qui est relevée toutes les semaines comme les autres poubelles. Mmh. Et donc, ce pot éclos, il peut aller dans cette poubelle.
Ok, voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Ok, donc là par exemple, si j'achète un pot pour l'instant, en attendant, je peux par exemple le mettre quand même dans mon compost si j'ai un jardin.
Oui, et puis de toute façon, alors on a 10 grammes de produits par pot, ce qui équivaut à peu près 3 rouges à lèvres, hein, c'est 3 produits en un. Ouais. Dans une logique aussi de moins de packs et plus de formules, enfin on inverse un peu les ratios habituels de l'industrie. Bon. Mmh. Et donc ce qui est sûr, c'est que d'ici à ce que, enfin je pense que la consommatrice, enfin, ça dépend de son utilisation, mais potentiellement n'aura pas fini son pot d'ici
l'année
prochaine. Généralisation des poubelles compostage.
Ouais. Bon, ça c'est pour la France en tout cas, parce que ton marché actuel c'est surtout français pour l'instant.
Ouais, c'est surtout français.
C'est français, ouais. Ok, parce que c'est un produit qui pourrait plaire en Angleterre aussi.
Oui, alors après on a des marques d'intérêt ailleurs, mais en fait on est lancé, ça je ne l'ai pas dit, mais on est lancé que depuis 6 mois. Donc,
oui, non mais c'est ça, c'est une marque très récente, et on vous voit quand même pas mal hein, déjà.
On nous voit pas mal.
Bonne petite
bonne agence.
Bah, bonne agence, et je pense que le produit est tellement...
Le produit plaît aux journalistes, l'histoire plaît, le produit plaît, et c'est sûr que c'est très innovant. Et
voilà, c'est très innovant. Ouais.
Dans son format, dans son look, dans sa présentation.
Et c'est ce que tu entends le plus de tes clients aujourd'hui, enfin de tes consommatrices, qu'est-ce qui ressort le plus aujourd'hui sur cette marque?
Il y a pas mal d'affinités spontanées avec la marque, et notamment des verbatims du type c'est une marque qui fait du bien, ça faisait longtemps que j'attendais une marque comme ça, que ce soit les consommatrices ou même les distributeurs, parce que on se fait pas mal démarcher par les boutiques indépendantes.
Parce que là, vous êtes distribué où? Parce que je sais que vous êtes... Enfin, le site, c'est sûr.
Alors,
mais
on a e-shop, eclobeauty.com, et on se déploie petit à petit depuis juillet, parce que dans des boutiques indépendantes. Et enfin, on est en discussion avec des plus grands, plus grands magasins ou
des magasins un peu bio ou pas forcément?
Si, en fait, les boutiques indépendantes, ce sont souvent des magasins qui choisissent leurs produits justement pour leurs engagements et qui ont une proximité avec les produits et avec leur clientèle, en fait, et qui savent raconter l'histoire des produits. Donc,
Parce que là, si j'y pense, je vous verrais bien chez Naturalia, par exemple.
Par exemple.
Des marques comme ça.
Ouais. Ben, c'est sûr qu'il faut que la boutique ait un engagement. Mais après, il y a aussi des boutiques plus tendance et prescripteurs de beauté qui sont intéressés par cette tendance de fond. Parce que justement, aussi, ma volonté, c'était de créer une marque hyper propre pour la peau et la planète, mais qui continue à faire rêver.
À faire du bien et à faire rêver.
Et à faire rêver, et pas...
bien sûr.
Et pas négliger cet aspect quand même aussi très aspirationnel de la marque.
Ouais, il faut que ça reste la base, Ouais. Ok, on a répondu à toutes mes prochaines questions. Où trouver les produits? Qu'est-ce qu'on entend le plus? Alors si, j'allais te dire, est-ce que tu peux nous dire une actu à venir sur la marque ou pas? Ou c'est trop tôt?
Oui, si, non, mais alors des actus, on en a plein. Là,
parce que c'est pas le mascara en tout cas.
C'est pas le mascara. Mais là, début décembre, sort une gamme complète de fonds de teint correcteurs.
D'accord.
En 10 teintes.
Wow. Toujours dans le pot,
toujours sous forme de petits pots. Donc là, c'est vraiment un baume 2 en 1.
D'accord.
Qui peut avoir une application locale, correcteur, anti-cerne, rougeur. Et beaucoup plus. Un teint beaucoup plus unifié.
D'accord.
Comme un fond de teint, si on chauffe plus la formule et qu'on les tire à davantage.
D'accord, bon, très très bien, ça c'est top. On a pas mal parlé de la marque, là maintenant on va parler de toi et de tes habitudes beauté, parce que les gens qui écoutent le podcast beauté aiment bien savoir ça sur les fondatrices. Est-ce que tu as une routine beauté à partager avec nous? J'imagine que tu utilises beaucoup Eclos.
Alors, j'utilise que Eclos, non c'est vrai, j'ai un peu... Évidemment, designer et penser ces produits et cette marque pour moi, parce que je me dis que déjà, si elle me plaît, elle peut potentiellement plaire à beaucoup d'autres. Et j'ai pas trouvé le moindre équivalent sur le marché en maquillage des produits. Et donc, ma routine beauté, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est une routine plaisir et minimaliste. Donc, je me... nettoie le visage avec un pain démaquillant que je suis en train de développer, donc là, un nouveau spoiler.
Oui, parce que j'allais dire, c'est pas éclos, mais si, du coup, c'est un projet.
Que je teste, parce que je teste tous les produits pendant des mois, à l'eau et donc à ce pain démaquillant hydratant. Ensuite, une crème, je vais prendre des crèmes hydratantes. Alors là, je peux faire de la pub, mais là, c'est plus des crèmes de pharmacie, on ne fait pas encore, mais
d'accord.
On travaille dessus. Et ensuite, j'utilise le baume fond de teint correcteur, anti-cerne, un peu de blush, de bronzage.
Là, je vois le fard à paupières un peu, non ?
Un peu de fard à paupières, voilà. Mais et vraiment, ma routine beauté le matin, je pense que ça me prend...
5 minutes.
Ouais, moins de 5 minutes.
Ok, bah top. Le produit éclos dont tu pourrais vraiment plus te passer ? Le produit, un seul.
Le produit éclos, je dirais que c'est le fond de teint correcteur.
Ok. Ouais.
Mais pour la plupart, j'ai convaincu beaucoup de mamans autour de moi, à Rennes et à Paris, enfin là, dans les villes où j'ai évolué, à Londres aussi, elles ne sortent plus sans leur blush.
D'accord.
Effet second peau.
Ok. Il donne envie. Alors là, c'est plus ta dernière découverte beauté qui n'est pas forcément ta marque, par exemple. Ça peut être une crème, ça peut être un shampoing, ça peut être... Est-ce que tu achètes toujours des produits, du coup ? Pas trop.
Non, mais je vais faire... je vais faire la pub pour une jeune marque de cosmétiques qui vient de sortir, deux petites jeunes qui viennent de sortir un mascara, top.
Je connais peut-être.
Qui s'appelle Pardi.
Ah non, je connais pas. Pardi.
Et ouais, j'encourage en plus tous les petits indies, les indie brands, comme on les appelle. Donc un mascara naturel et voilà.
Ok.
Qui est un bon all-in-one, volume, définition, séparation. Okay.
Et eh ben je regarderai.
Petite pub pour Pardi.
Sympa. Est-ce que, alors ça c'est un must dans le podcast beauté, un gros ratage beauté ou capillaire à me raconter ? Ça peut être durant tes années au collège, lycée.
si, enfin.
Tout le monde en a pratiquement en général.
Oui, oui. Hein. Je me souviens que vers, je pense, 20 ans. J'avais tenté la cabine autobronzante avant un mariage.
Oh là, oui.
Et donc, évidemment, bien trop peu de temps avant le mariage. Donc, je me suis réveillée le lendemain en filant ma robe et
toute rouge.
Non, ouais, enfin, plutôt zèbre, orange et blanc.
Oh là là, ouais. Oh
donc,
là
compliqué.
Oh là là, ouais. Même le maquillage n'a pas pu rattraper ça.
Non, enfin, ouais. Donc, c'était là tout le corps.
Ouais. Ah, c'est dangereux, ça, les cabines UV. Hein, comme ça.
Je ne referai pas.
Moi aussi, je l'ai fait une fois dans ma vie, je ne recommencerai jamais, mais parce que je suivais une collègue, je vais avoir 25 ans, et ils m'ont mis dans la cabine intégrale, là.
Ah oui, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Et ben, j'étais pas bien, j'ai eu peur, même.
Ah oui ?
Comme, oui.
Claustro, ouais.
Oh, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là-dedans ? Est-ce que je peux ouvrir ? Plus jamais. Et pareil, j'étais toute rouge après. Alors là, c'est les dernières questions du podcast, les questions en vrac. Elles vont pas forcément toutes ensemble parfois, donc faut pas s'inquiéter. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde d'un coup de baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ? T'as tellement de valeur que ça peut être assez rapide là.
Bon, alors c'est un peu bateau, mais.
Oui, mais c'est souvent bateau, ouais, mais c'est souvent. Ouais. Qu'on pense vraiment.
Je réduirais les inégalités parce que les inégalités elles sont croissantes et avec les aléas climatiques qui vont s'intensifier, ça va aller de pair avec encore des écarts d'inégalités qui vont se creuser.
Mm-hmm. Ok. À quel moment tu es la plus heureuse aujourd'hui ?
Quand je suis pleine d'énergie au petit-déj le matin avec mes quatre enfants et que je vais partir retrouver mon équipe et Chloé et avancer sur les projets.
Ouais. Alors j'allais dire, quel est le moment le plus heureux que tu as eu lors de la création des Chloé ? Parce qu'il y a eu un moment vraiment où vous avez sorti le champagne ou...
Le moment, oui, enfin, il y en a eu plein des moments, mais je pense qu'un des moments les plus encourageant, soulageant aussi quelque part, c'est quand j'ai commencé à, enfin quand on a lancé notre campagne sur Ulule,
oui,
et qu'on a vu les ventes s'envoler,
ouais.
Puisque on a fait une super campagne, on a dépassé notre objectif de 3000% et
c'est ouf, ouais.
Et on a eu des retours incroyables, et en fait là, je me suis dit mais en fait
ouais.
Évidemment ce concept, j'avais raison de croire qu'il allait plaire.
Ouais.
Mais c'est vrai que toute aventure entrepreneuriale demande une part de risque, évidemment, mais du coup, d'énormes convictions, résilience, foi. Il faut vraiment croire en soi et pas lâcher son intime conviction qui nous guide.
Ouais, complètement, complètement. Quel est ton mantra dans la vie? Une quote.
Ouais,
je sais plus comment. Une quote, ouais.
Non, mais j'aime bien une quote de... Peter Drucker qui dit, j'ai dit plutôt en anglais, mais the best way to design the future is to create it.
To create it, ouais. Ouais. C'est un peu ce que tu as fait.
Voilà.
J'aime cette phrase, justement.
Ouais.
Ça doit bien.
The best way to predict the future
is to create it.
Ouais.
Mmh. Sympa. Eh bien, écoute, je vais te laisser le petit message de la fin. C'est ce que tu veux adresser aux personnes qui nous écoutent sur le podcast Beauté.
Bah, c'était un autre mantra qui m'anime souvent, ou parfois, quand on a besoin de se booster, je vais faire un pitch, je me dis pourquoi pas moi, enfin, voilà. Pourquoi, si pas moi, qui en fait, pourquoi pas vous, à toutes celles qui écoutent et qui ont une petite graine qui peut germer
en
un projet,
voilà.
Mais allez-y.
Ouais. Et encore mieux s'il y a une conscience écologique derrière, s'il vous plaît. Bah écoute, merci beaucoup. Ce podcast est fini et j'espère que ça t'a plu.
Merci
Katia, merci à vous. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Turn the face to strange.
Don't wanna be a richer man.